Alors, on avait vu notre cher ami Jonas, que son prénom signifie colombe, et puis il venait du royaume du Nord, hein, dont la capitale c'est Samarie, durant le règne d'un roi, Jéroboam II, entre 793 et 753 avant Jésus-Christ. Donc, ça nous place pratiquement Jonas 800 ans avant Jésus-Christ. Son ministère s'est déroulé quelque temps avant celui d'Élisée. Et puis, Jonas était un contemporain, plus ou moins, il est assez proche du prophète Amos. Et on sait hein, que Jonas était invité par le Seigneur à aller prêcher à Ninive, une prédication pour annoncer le jugement sur Ninive. Et puis, les rois de l'époque, on ne sait pas exactement quel était le roi au moment où Jonas est allé prêcher, mais durant le vécu de Jonas, il y a eu deux rois. Bon, je ne vais pas redonner les noms, mais durant ces deux rois assyriens, donc à Ninive, il y a eu des changements, comme une orientation qui s'est plus tournée au niveau religieux vers le monothéisme. Et puis aussi un autre roi où il y a eu des épidémies majeures de peste durant ce temps-là, ainsi qu'une éclipse totale du soleil. Alors ces événements ont peut-être amené justement les gens de Ninive quand même à se préparer à la visite du prophète. Et puis Ninive était donc située à 800 km au nord-est de la Galilée. Et puis c'est Pierre qui nous disait que c'était Mossoul en fait actuel. Donc c'est en Irak, dans la ville de Mossoul actuelle, là où il y a l'État islamique.
C'est pas pour rien, excuse-moi,
Oui.
on dit aussi que l'État islamique Daesh serait des descendants des Assyriens.
Ah
Hein?
ouais, ok.
Ouais.
Oui, certains, je pense.
C'est bien entendu, en tout cas.
Et puis, on avait vu aussi que ben, face à cette mission, ben, Jonas, il a eu de la peine, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, à y rentrer. Pourquoi? Peut-être à cause de sa théologie. Parce que peut-être que le prophète Jonas était dans une forme de théologie avec, bon voilà, nous on est le peuple élu, on est quand même supérieur aux autres. Et puis, je vous avais lu la Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation, hein, par rapport à Israël, la promesse du Seigneur, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Hein? Peut-être que Jonas, comme des fois nous aussi en tant que chrétiens, on se rappelle plus ce texte par rapport à Israël. Que celui qui maudira Israël sera maudit, mais on oublie que celui qui bénit Israël sera béni, hein, et que même Israël est appelé à être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc Jonas, il avait peut-être oublié que Israël, sans l'appel d'Israël en tant que nation, était d'être une source de bénédiction pour toutes les nations, même les nations, entre guillemets, ennemies. Et puis, bon, on a vu que Jonas, au moment où Dieu l'appelle, ben, il s'en va direction Tarsis, qui était vraiment l'opposé de Ninive. C'était pas en direction de l'Espagne, en fait, hein, pratiquement l'extrémité de la mer méditerranéenne. Et puis, il est parti de Jaffo, qui était le port un peu commercial de Jérusalem. Jérusalem n'est pas directement au bord de la mer, hein, mais voilà, ça faisait un peu le port commercial de Jaffo, de Jérusalem, et qui aujourd'hui correspond plus ou moins à la ville de Jaffa. On avait vu aussi qu'il a pris un bateau en direction de Tarsis. C'est tout à fait probable. Pourquoi? Parce que on retrouve cette appellation dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits. Les navires de Tarsis. Déjà avec le roi Salomon, pour la construction, il avait fait venir du matériel de Tarsis. C'était une ville qui était connue pour ses richesses au niveau des minerais. Et puis, j'avais dit en plaisantant, bah, peut-être que Jonas, il avait déjà un projet, c'était d'aller chercher des pierres précieuses là-bas et puis d'ouvrir une joaillerie Jonas. Hein, voilà un beau nom. Il avait déjà un projet, mais on sait que l'Éternel a fait souffler un vent contraire, hein, impétueux, et puis le bateau faisait menace de naufrager. de couler, de faire naufrage. Et puis, que fait Jonas dans ce moment-là, alors que tous les matelots sont en train d'invoquer leur sang, leur saint et leur dieu? En effet, il va au fond de la cale et il s'endort profondément. Mais le capitaine va le rechercher et puis lui dit, mais voilà, invoque ton dieu, peut-être qu'il va répondre. Et rien n'y fait. Et puis il tire au sort et le sort tombe sur Jonas. Hein, et puis il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu nous attires ce malheur? Et il dit, ben voilà, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Hein. Et ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Parce qu'ils savaient que Jonas avait déserté la mission du Seigneur. Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et ces hommes vont dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jonas dit, ben, jetez-moi par-dessus bord et la mer se calmera envers vous. Et puis, ben, c'était des marins, donc ils n'ont pas fait ça. Ils ont essayé de ramer de toutes leurs forces pour rejoindre le rivage, mais impossible. Et au bout d'un moment, ils l'ont jeté par-dessus bord et tout de suite la mer s'est calmée. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Hein, c'était un moment certainement très fort là pour... Il y a de quoi, hein. Vous êtes à deux doigts de la mort et vous jetez un homme par-dessus bord, ça c'est quelque chose que vous ne faites pas tous les jours en tant que marin. Et puis, ouf, la mer se calme. Je pense qu'en effet, ils ont dû se dire... Bah, cet homme-là sert vraiment l'Éternel, celui qui a créé la terre et les cieux. Ça a dû être un moment extrêmement, extrêmement fort. Alors, je continue maintenant sur le chapitre 2. Donc, la prière de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme et dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, et je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voilà, j'ai lu jusqu'à la fin du chapitre 2. Alors, on y va comme ça, hein, tout de court, si... S'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir, bienvenue, par rapport à ce
Est-ce
qu'on
qu'il
vient
nous
de
a
lire.
frappé?
Voilà, oui. Des fois, on lit comme ça, puis on a une pensée, simplement, qui nous vient à l'esprit. C'est ce qui est magnifique avec la Bible, parce que vous pouvez... C'est là qu'on voit quand même que Saint-Esprit parle au travers de la parole, hein, parce que vous pouvez revenir tant de fois que vous voulez sur un texte, tout d'un coup, il y a quelque chose, tac. Ah ouais, il y a une pensée qui nous vient et puis qui nous inspire sur le moment.
Ouais, les 3 jours, les 3 nuits, ça fait penser au Seigneur aussi.
Quand même, hein. Tout à fait. Oui. Ça, c'est... Je l'avais marqué là, c'est Matthieu 12. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Il parle d'abîme aussi, Jonas.
Heureusement que Jésus a parlé de l'histoire du poisson, de Jonas. Sinon, on serait encore aujourd'hui à se poser des questions.
Tout à fait, ouais. Ouais, j'avais une remarque, un commentaire biblique là-dessus, de dire, mais si on relativise le texte de Jonas, hein, parce que c'est tentant de se dire, ouais, quand même, dans un poisson, c'est un peu gros le truc, hein, bah alors on doit relativiser aussi les paroles de Jésus.
Ouais, toute la Bible. Quoi.
Et puis au final, toute la Bible, en effet. Ouais, ouais. C'est vrai que ce n'est pas seulement une histoire à raconter pour les enfants.
Non.
Mais au moment où on relativise un texte qui peut nous paraître gros, hein, mais en effet, vu que Jésus l'a cité, puisqu'on pourrait se dire, bon, c'est un texte poétique, vu qu'on avait vu, hein, la dernière fois, il y a un petit côté comique dans ce livre aussi, hein, comme on voit que c'est l'antithèse du bon prophète. Hein, Jonas, il fait un peu tout à l'opposé. Oui.
Il désobéit, quoi.
Il désobéit.
Et c'est là qu'on peut voir, d'après ce que tu viens de lire, que l'Éternel, Dieu, est souverain. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Et quand il dit, il donne un ordre à un de ses enfants qui ne le fait pas, il fait que les circonstances se mettent en place pour que la personne en question comprend le message que Dieu lui a donné, afin de le mettre en pratique. C'est un peu la moralité, disons, de Jonas. Que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, puis il arrive à toujours à faire ce qu'il désire avec ses enfants. On peut voir la chose dans ce genre-là. Parce qu'au départ, il était désobéissant, hein, lui. Hein, il ne voulait pas... Non, 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 je ne vais surtout pas parler de salut ou bien d'amour de Dieu aux gens de Ninive. Hein, il se mettait un cran au-dessus des gens de Ninive.
Je pourrais juste dire quelque chose.
Oui, bien sûr.
Par rapport à la désobéissance de Jonas, loin de minimiser sa désobéissance, je pense qu'elle est humainement un peu compréhensible. Je viens de relire Habacuc, et quand on lit ce que Habacuc dit sur les Ninivites, alors même moi, je me suis posé la question justement par rapport à Jonas, est-ce que je serais allé? Les Ninivites, les Chaldéens étaient considérés comme un peuple, il n'y a qu'à lire Habacuc, hein, un peuple violent, furibond, sanguinaire. Ils faisaient des tas avec les cadavres, et puis avec les prisonniers, ils coupaient les membres des prisonniers. Ils étaient d'une violence inouïe. Ils prenaient des prisonniers pour les... Ils vidaient les... Enfin, ils prenaient des gens chez eux pour les faire esclaves, etc. Ah, mais c'était... Alors, si à l'époque de Jonas, il me semble que ça pouvait aussi... ça pouvait être encore comme ça, je me suis dit, humainement, personnellement, hein, je dis bien personnellement, je comprends un tout petit peu. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir que Dieu ne lui fait jamais aucun reproche. Hein. Il va lui donner, comme a dit Georges, hein, il va le mettre au pas, il va faire des circonstances, le mettre dans le poisson, puis après, il aura chaud, il y aura le ricin, il y aura... le ver qui ronge, il va le mettre au pas, mais Dieu ne lui fait pas de reproche. C'est ça qui est intéressant. Mais quand même, par rapport à la désobéissance, alors je suis tout à fait d'accord, c'est une grâce incroyable.
Il y a un reproche, c'est juste à la fin.
Ouais.
Fais-tu bien de t'irriter?
Ouais.
Mais voilà.
Oui, c'est pas parce qu'il avait, qu'il avait désobéi.
Mais c'est vrai que... On voit toute la pédagogie du Seigneur. Et puis, en effet, hein, ce peuple était terrible. D'ailleurs, on le voit dans ce que dit le Seigneur, là, au chapitre 1er, verset 2. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Hein, » Ce n'est pas déjà une parole pleine de douceur. « Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et puis, mission, en effet, périlleuse et difficile pour Jonas.
Il a
la pétoche.
Il a dit, on va me couper la tête si j'y vais.
C'est l'État islamique. Hein.
Ah ouais, c'est un peu ça.
C'est l'État islamique actuel. Comme si
nous allait maintenant à Mossoul. Bon, on n'est pas sûr de revenir. Il n'y a pas la guerre encore.
C'est la même chose.
Je vais couper la tête presque au resto.
Si Dieu te dit, tu vas là-bas et tu vas prêcher la porte, tu me dirais.
Tu fais le tour de la ville pendant 40 jours, tu dis.
Mais c'est quand même frappant. Ce qu'on a dit aussi, c'est que Ninive, c'est Mossoul. Il semblerait que c'est Ninive. D'après les recherches, tout. Et qu'en plus, c'est que Daesh, il serait issu justement. Et on le voit, comme tu viens de le dire, par rapport à la cruauté qu'ils ont mangé plus de mosou, plus de ça. C'est exactement, on pourrait presque dire que c'est la même chose que Daesh, hein, au niveau de la cruauté.
Mais Mossoul n'a pas été construit sur Ninive, mais un peu à côté.
Un petit peu à côté.
Parce que Dieu a prédit que Ninive ne sera jamais reconstruite.
Ah, d'accord.
Parce que ce que Dieu a dit, Ninive sera détruite, ça s'est réalisé, mais 400 ans après. Et puis il avait dit, je ne sais plus par quel prophète, alors là ça m'échappe,
mais je me rappelle juste
la question, que Ninive sera détruite, mais 400 ans après elle a été détruite, et il a été prophétisé qu'elle ne sera plus jamais construite. Mais Mossoul est dans la région.
Dans cette région.
Moi, je me posais une question aussi dans la fuite de Jonas. Est-ce qu'en partant comme ça à Tarsis, est-ce qu'il avait peut-être même le projet de ne pas revenir? Vu qu'il fuyait l'Éternel, puis qu'Israël, c'était quand même le pays de l'Éternel, peut-être il avait vraiment le projet même de ne pas revenir en Israël. Hein. C'est possible, hein. Il n'y a pas besoin de visa à l'époque pour.
C'était un émigrant, quoi.
Ouais.
Un émigrant, il voulait
aller
à l'étranger.
C'est une bonne idée, c'est une deuxième question que je pourrais lui poser quand
voilà. Vous l'avez aussi. Est-ce qu'il y a d'autres marques? Alors, mais après, vous pouvez intervenir.
Oui, il y a une chose qui me touche beaucoup. C'est que la leçon pour moi, hein, je ne parle pas pour les autres, mais la leçon pour moi, ici, quand je lis ce que Dieu fait avec Jonas, hop, dans le ventre du poisson, va réfléchir un petit peu, mon petit. Hein. Je me suis dit, Giuseppe, il vaut mieux ne pas désobéir. Enfin, je ne veux pas dire ne pas désobéir, mais il vaut mieux ne pas désobéir à tel point que le Seigneur doit te corriger de telle manière. Parce que autant demander par... Enfin, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. On ne désobéit pas franchement exprès, mais ne cherchons pas... Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça. Pour moi, je pense que c'est une leçon importante que... Si le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose que je ne fais pas comme il faut, Joseph, dépêche-toi de revenir au Seigneur avant que le châtiment soit. Parce que Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants. Voilà, c'était... Et puis la grâce, la chance que Dieu donne à Jonas de pouvoir se repentir là dans le poisson.
C'est vrai que c'est surprenant, hein, parce que Dieu laisse libre, mais quand il nous appelle à son service, des fois, on n'est plus si libre que ça. Hein.
C'est ce que vous voulez dire tout à l'heure.
Oui.
C'est ce que vous voulez dire tout à l'heure.
C'est
exactement ça. Ouais. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et s'il choisit, il choisit. Ouais. Quand il a choisi Moïse, il a choisi Moïse après 40 ans qu'il était dans le désert. Hein. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Hein. Malgré ce qui s'est passé par la suite en Égypte et puis après.
Mais pour poursuivre un petit peu dans cette idée, Dieu fait ce qu'il veut, mais jamais il ne contraint l'homme et le force et l'oblige. Mais il arrive quand même à ses fins en courbant l'homme sans le casser, en le contraignant sans le contraindre, d'une manière que sa liberté et sa responsabilité demeurent toujours intactes. Alors ça, ce que tu viens de dire, Georges, c'est le miracle le plus extraordinaire. Enfin, un des miracles les plus extraordinaires. C'est comme avec nous. Quand il nous a élus pour le salut, il est venu nous appeler. Il est venu nous justifier. Il est venu nous glorifier. Mais il ne nous a pas sauvés par force. On a dit oui à ce que Dieu lui-même voulait dans sa grâce souveraine. Mais on n'a pas répondu par la force, par obligation, par crainte ou par je ne sais pas, mais librement et volontairement, en toute connaissance de cause. Et comment cette souveraineté absolue de Dieu et la liberté et la libre responsabilité de l'homme vont ensemble, c'est ça qui a fait le grand problème de la réforme. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que je ne comprends pas.
Alors, ouais, c'est vrai que Dieu nous appelle à des missions, hein, tous, en tant qu'enfants du Seigneur. Et comme Jonas, ben, des fois, on peut être repris. Moi, je donnerai un témoignage personnel. Je verrai si je le coupe, là, dans le...
censurer
après sur l'enregistrement. Non, mais je me rappelle, j'étais aux études, et puis je travaillais... à Lausanne comme éducateur remplaçant pendant la période d'été. Et puis, à un moment donné, franchement, oh, j'en avais marre, ça galère. Et puis, j'ai dit, oh non, franchement. Maintenant, servir le Seigneur comme ça, non, si c'est pour avoir que des soucis du genre, non, Seigneur, je t'aime beaucoup, mais maintenant, il faut un peu m'oublier. Parce que comme ça, je me disais, le diable va m'oublier. Et puis, le lendemain, j'étais au travail, puis il fallait déplacer une grosse table comme ça, mais avec un gros plateau, vraiment plateau massif, hein, donc le bois, le véritable bois. Hein. Et puis, les personnes qui avaient mis ces tables, ils avaient, d'un côté où je les portais, ils avaient mal clippé le pied. Et puis moi, j'ai tiré avec un résident, puis tout de suite le pied s'est plié, puis c'était l'été, donc j'étais en petite chaussure. Ah, je me suis cassé une phalange d'un orteil là, ouais. Puis je me suis dit, d'accord. Même un espion pensant que le diable laisserait en paix, ça va pas quoi. Donc voilà, ça c'est un petit témoignage personnel. Je me rappelle très bien. Et c'est vrai que le Seigneur laisse libre, mais de l'autre côté, oui, c'est un combat que de le servir, de toute façon. Hein, qu'on s'engage pour une raison ou pour une autre pour le Seigneur, ce sera un combat. Pourquoi, dans sa grâce, le Seigneur nous rappelle? Parce que y a quand même beaucoup de gens que le Seigneur a appelés à son service. Et qui vont faire des études, des formations bibliques, etc., etc., et qui, au bout de quelques années, ne sont plus du tout dans le ministère. Hein. C'est une grande majorité. Moi, j'avais entendu des chiffres, c'est genre 80%. Ouais, même plus. C'est extrêmement élevé entre les gens qui se forment. Puis après, vous regardez, au bout de 10 ans, qui est encore en train de servir dans la maison du Seigneur? Il y a peu de gens. Hein. C'est peut-être aussi plus marqué dans nos sociétés en Occident, où on a plein de porte pour pouvoir s'échapper là, mais oui, il y a quand même beaucoup de personnes, hein, qui, bon, c'est pas pour juger, hein, il peut y avoir aussi des bonnes raisons, hein. Des Jonas, il y en a encore aujourd'hui, et je pense qu'on a tous aussi nos moments de découragement, et que le Seigneur des fois doit venir nous rechercher et intervenir, hein.
Mais ceux qui font des études, ils ne vont pas tous pour servir, ils vont pour se former, pas nécessairement pour servir le Seigneur, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont parce qu'ils sont engagés dans le service du Seigneur, et puis après qu'ils se rétractent.
Ah, c'est sûr qu'il y aura des personnes qui viennent pour parfaire leur connaissance biblique, mais quand même la majorité, c'est qu'ils ont senti un appel sur leur vie, et puis voilà. Donc on voit, hein, c'est là l'importance de pouvoir accompagner les gens, de pouvoir être là dans la prière avec eux aussi pour qu'ils puissent passer les étapes et puis aller plus loin dans le service avec le Seigneur. Hein.
Même Jérémie voulait arrêter. Puis il a dit, quand je veux arrêter, un feu brûle dans mon cœur. Je ne sais pas le verset exact, mais... Et puis ce n'est pas le seul. Hein. Moïse aussi voulait arrêter. Ceux qui ont eu la déprime, Moïse, David, et puis tous les grands. Élie voulait aussi. Fais-moi mourir, je ne suis pas meilleur que mes pères.
Ouais. Alors voilà, donc moi je pensais par rapport à la fin du chapitre premier, on aurait pu se dire aussi l'histoire aurait pu s'arrêter là. Hein, le poisson arrive, paf, Jonas se fait engloutir, ma foi c'est le jugement de Dieu.
Il tout s'est engloutir tout de suite.
Voilà, ouais, mais il.
Question.
Ah, bah.
Parce que d'après ce que c'est tout la suite, il a l'air de détailler.
Je sais pas si.
Il arrive dans l'eau.
Je sais pas si Jonas savait nager. Hein, et puis. Alors, est-ce que c'est dans le ventre qu'il voit ça, hein?
Je me suis posé la question.
Parce que, ouais, peut-être que...
Oui, dans le ventre du poisson.
Je pense qu'il y avait... Il y avait
dans
le ventre du poisson,
parce
trois que... jours et trois nuits.
Les baleines, peut-elle...
Prie à l'Éternel, son Dieu, dans le ventre du poisson.
Oui, mais après, il y a toute une...
Il dit...
Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie.
Oui, parce qu'il était dans le poisson.
Les roseaux ont entouré ma tête.
Les roseaux, dans le ventre du poisson, il n'y a pas beaucoup de roseaux. Non,
non mais non,
moi j'ai les algues.
Ouais, mais c'est peut-être ça.
Les algues.
Est-ce qu'il a vécu tout ça avant de rentrer dans le poisson?
Non,
moi je pensais que c'était dans le ventre aussi.
Au verset 2, c'est marqué Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu, il dit.
Oui, après, on arrête. Après, il y a toute autre chose qui vient. Comme s'il avait vécu un moment dans l'eau.
Non, ils disent tout ce qui est dit là, c'est dans le ventre du poisson qu'il l'a dit.
Je sais pas.
C'est vrai?
Moi, je comprends
non,
pas
c'est dans le ventre du poisson, il prie à l'Éternel son Dieu.
Mais
c'est
avant, là, il dit.
Il avant, dit.
Avant, il a
il dit.
Avant, il n'en fait pas, non.
Oui, mais vous avez vu tous les détails qu'il donne.
Non, mais
les roseaux, ils poussent. Non, les roseaux, ils poussent.
Il a tapé sa tête contre les roseaux.
Les roseaux, ils sont là, au milieu de la mer.
Les flots, ils
n'ont
pas
chassé les
algues.
Au lac de Jadel aussi, on a des roseaux et des canards. Mais au milieu de la mer, je ne vois pas des roseaux.
L'eau m'a fait.
Alors, Ross, est-ce que c'est bien traduit roseau? J'en sais rien.
Non, c'est marqué algues, là.
Les algues, oui.
Les algues.
Ah,
parce que les roseaux, ils sont au bord de l'eau.
Oui,
les algues, oui.
Alors moi, je suis pas un spécialiste des cétacés, mais les voilà, quand ils mangent le krill, ils prennent l'eau avec. Hein, il y a une grosse quantité qui arrive.
Ouais.
Comment c'est digéré dans l'estomac d'une grosse baleine, je sais pas. Hein.
Les barrières,
ouais.
C'est clair que ça peut être
ouais. Ouais. En tout cas, c'est un peu les
cachalots,
par rapport.
Cachalots, ouais.
Les requins baleines, vous les connaissez, les requins baleines? Ils ont entre 12 et 16 mètres de long.
Oui,
et puis ils en débouchent quand ils ouvrent comme ça grande
ouais,
bouche.
Donc on a
ils avalent des litres et des, je sais pas combien, d'hectolitres d'eau, de krill,
ouais.
Tout ça. Mmh. Il y a des choses et qui filtrent aussi.
Des petits poissons.
Mais bon, je peux comprendre qu'un poisson pareil, il peut avaler un homme. Vous savez, moi j'en ai vu dans les documentaires télévisés, des requins baleines qui mesurent 12 cm de long.
Oui,
tu les as vu.
Moi aussi, une fois, je me suis fait.
Ils ont une grande bouche. Hein, c'est...
Alors, bonne question. Moi, je n'ai pas forcément la réponse. Hein.
je ne sais pas si c'est des algues ou des roses.
Mais, ouais. Par contre, je me suis renseigné un petit peu ce qu'on peut trouver dans la mer Méditerranée. Ouais. Et puis, à savoir qu'on trouve 5 espèces sur les 11 existantes au niveau des baleines, dont une grande majorité, le rorqual commun, qui fait jusqu'à peine en dessous de 20 mètres. Et c'est ils mangent énormément de krill, des petites crevettes. Et il y en a 3500 de ces rorquals communs en mer Méditerranée. Et d'ailleurs, j'ai vu que régulièrement, les bateaux qui vont en Corse, chaque année, ils en attrapent, ils font un choc avec une de ces baleines, quoi. Plusieurs fois dans l'année, ils en détruisent une, quoi. Donc, on pense qu'il y a peu de baleines dans cette mer. Eh ben non, c'est pas vrai. Hein, il y en a. Et puis, il y a une ville en France qui s'appelle Sète.
Ah oui.
S-E-T-E, qui est près de Montpellier.
Oui, pas loin de Montpellier.
Si vous êtes, je sais pas, vers Marseille, puis vous allez en direction d'Espagne, le long de la mer, là, vous allez passer par cette ville. Hein.
Très
ah, voilà. Eh ben, Sète, avant, s'écrivait C-E-T-E. Et en fait, ça vient de cétacé. Donc, s'il y a une ville en France qui porte ce nom-là, c'est bien qu'il y en avait aussi déjà par le passé. Hein. Donc, on voit que historiquement, on peut se dire oui, c'est tout à fait possible qu'il y avait déjà des baleines,
des gros poissons,
et puis que notre ami Jonas se fait engloutir. Alors, est-ce qu'il était en train de nager? Est-ce qu'il était en train de couler? Ça, on ne sait pas où il était, à quel niveau de la surface de l'eau quand il s'est fait croquer. Mais de toute façon, c'est un miracle que le bonhomme puisse passer 3 jours dans, dans l'estomac.
Ben oui.
Est-ce qu'il est resté vivant les 3 jours?
Est-ce qu'il a respiré?
Voilà, est-ce qu'il n'est pas mort étouffé, là?
Comment les choses sont passées?
Est-ce qu'il est mort et il est ressuscité une fois qu'il a été...
En tout cas, il devait être conscient un moment parce qu'il a quand même prié dans le ventre. Il n'était pas dans l'abîme, je veux dire, il n'était pas dans... il n'était pas dans le séjour des morts ou je ne sais pas où, si Dieu l'avait jugé, j'en sais rien. Il a prié dans le ventre, donc il était encore conscient. Et puis certainement après 3 jours. Alors, peut-être, est-ce qu'il est resté 3 jours vivant comme ça, ou Dieu l'a relevé au bout de 3 jours, l'a ramené à la prière, à la conscience ou... Bon, moi, je pense qu'il est resté conscient. J'imaginerais plutôt dans cette direction-là.
Oui, moi, je pense aussi, puisque...
Mais c'est le record du monde, ça, 3 jours en apnée.
Bien,
hein.
J'allais perdre.
Ça plonge actuellement, s'ils n'ont pas de bouteille.
2 minutes, 3 minutes.
Il y a ça. En apnée, tu fais 3-4 minutes. En apnée, 2 minutes.
Attention, une baleine, elle va respirer aussi en haut, elle monte.
Elle va tous les temps.
Peut-être qu'il y avait
des bouffées d'air qui rentraient.
Mais l'acidité dans le ventre de la baleine, je te dis que tu ne fais pas l'enfant.
C'est vraiment de la science-fiction.
C'était pas une baleine.
Tu fais grignoter, l'acidité. Dans l'estomac d'une baleine.
Oui, mais là,
ça c'est une question.
Tu fais pas long, je
pense. Mais dans le reste, on peut imaginer n'importe quoi.
On est
de l'autre côté, on croit la parole.
Pour moi, ça fait un miracle
pour qu'il puisse
faire un miracle. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment fait? C'est toujours la même question.
Mais d'un autre côté, on veut toujours essayer de rationaliser les choses. Et puis, on est vraiment. On est méconnaissant. Totale encore, les fonds marins. Actuellement, ils sont en train d'explorer un petit peu dans l'Antarctique. C'est la première fois du monde, dans le monde, qu'il y a une équipe de chercheurs, j'ai vu ça l'autre jour, qui ont été à moins, je ne sais pas combien, moins 10, je ne sais plus combien avec des combinaisons complètement folles pour descendre à 60 mètres. Mais quand on sait que l'encre
avec le froid, tu rigoles?
Non, mais je dis l'encre.
Ah ouais, d'accord. Parce que si on prend l'empereur le manchot, par exemple, le manchot empereur, il peut descendre jusqu'à 600 mètres de profond. C'est un animal, je ne sais plus comment, si c'est un cétacé, la famille des cétacés. Mais qui vit très bien. Ouais, qui vit très bien. Bah, donc,
c'est un
pingouin, ça, non?
Nous, on arrive à 60 mètres.
C'est un empereur.
C'est les noirs.
C'est extraordinaire qu'on arrive à 60 mètres avec le froid qu'il fait. Ils descendent à 600 mètres. Et ils vivent sur la banquise aussi. Et ils arrivent à tenir, je ne sais plus combien de temps, en apnée. C'est assez phénoménal.
Pour descendre à 600 mètres.
Donc, ce qu'il faut quand même voir là-dedans, c'est que Dieu est tout-puissant. Puis que même, on peut encore imaginer qu'il y avait un poisson qu'on connaît peut-être pas.
Oui, exactement. Moi, j'ai pensé aussi à ça.
Qu'on connaît peut-être pas, qui existe peut-être même encore dans les fonds, tout au fond.
Quoi, et puis Dieu a pu aussi faire qu'il y ait un poisson spécial pour Jonas.
Oui.
Les Juifs traduisent par Léviathan. Le grand poisson par Léviathan. Et comme dit Claude, moi, je suis persuadé que si Dieu a voulu mettre Jonas dans le ventre d'un poisson, il s'est débrouillé, il s'est arrangé pour qu'il puisse aussi respirer, en tout cas rester conscient, et puis faire sa prière.
Là, mais certainement.
S'il n'était pas conscient, toute cette prière-là dans le ventre du poisson, elle serait venue comme
ça. Là, il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la tombe, ô éternel mon Dieu, au verset 7. Donc il était quand même, il est peut-être mort, et puis il l'a ressuscité.
Non, mais je pense que la situation où il était, c'était sa façon à lui de dire que c'est comme s'il était mort.
Ah ouais, je pense qu'au bout de 3 jours...
Il était dans une situation...
Enfin, bref, on saura jamais, on saura là-haut, c'est tout.
Non, mais on est comme ici pour...
Non, mais je ne dis pas le contraire, mais je dis que c'est des choses qui nous dépassent, et il y a une question de foi. Ouais, l'ennemi est toujours derrière. Est-ce que Dieu a vraiment dit?
Ah non,
non, mais je ne dis pas à nous. Ça, mais j'entends, on a toujours ça qui vient. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce qu'il a vraiment fait? C'est une question.
On réfléchit à l'humain,
on ne comprend pas, ben, ma fille, on passe par-dessus.
On n'est pas.
Oui. Je ne dis pas le contraire.
Dans la tête de Dieu.
Mais à un moment donné, on tourne en rond et on n'aura jamais la réponse. Donc. Non.
En tout cas, notre ami Jonas, il avait quand même la foi parce qu'il prophétise. quand il est au verset 7, là, ouais. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. C'est une prière de foi.
De la foi. Il a... de repentance aussi.
Mmh. Amen. Ouais.
Ah, oui,
oui, ça c'est
oui.
La repentance.
Oui, il a été en position de repentance dans cette situation-là. Oui. Et oui, c'est dans les difficultés souvent.
Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans son Saint-Temple. C'est magnifique hein, de savoir que même si on a pris une fausse voie et même si on s'est éloigné de Dieu, la connexion est encore possible jusqu'au Saint-Temple. Hein. On peut s'imaginer là notre ami Jonas au fin fond de la mer... englouti dans l'estomac d'une baleine et Dieu entend la prière et Jonas a la foi que Dieu entend la prière de son Dieu dans cette situation qui est quand même pour le moins extrême. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Hein, donc en effet, il y a eu de la repentance. Jonas a c'est à nouveau engagé pour le Seigneur. Le salut vient de l'Éternel. Peut-être qu'à un moment donné, Jonas se disait, de toute façon, mon salut, je peux le trouver aussi en dehors de Dieu. Hein, je peux aller faire mes affaires à Tarsis ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait en tête en allant là-bas. Mais là, il leur déclare, le salut vient de l'Éternel. Et puis aussi, on peut penser, cette parole, elle est forte. Par rapport aux gens de Ninive, le salut vient de l'Éternel. Et en effet, le salut va se manifester dans cette ville. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.
On voit aussi qu'il va être fortifié par cette épreuve-là. Donc, par le fait déjà qu'il désobéit, il y a une conséquence, sa désobéissance. Hein, puis ben là, il vit vraiment, il est au fond du gouffre. Et puis ça, on peut aussi le voir pour nous. Hein, si quand on est au fond du gouffre, le Seigneur, ben, il peut aussi nous parler d'une manière. On est aussi plus
vulnérable aussi. Hein.
Plus vulnérable, mais on est aussi plus vite aussi frappé par l'écoute du Seigneur. Ouais.
Ouais. Quand je lis cette prière de repentance, le contraste est frappant. Entre Jonas qui dit « Oh !» Tu veux m'envoyer à Ninive? Niet. Je vais à Tarsis. Arrange-toi pour les convertir autrement. Et puis, c'était un peu... Bon, c'était un petit peu fort hein, de la part de Jonas. Mais après, là, dans le ventre du poisson, on sent dans sa prière de repentance exactement ce qu'est la repentance, c'est-à-dire un changement complet d'attitude, comme le mot original veut le dire. Et on sent ici, alors, oui, Seigneur, je veux me soumettre, je te demande pas. Il n'a pas dit je te demande pardon, mais on le sent dans tout ce qu'il dit. Il allait mourir, il est descendu jusqu'aux racines, etc., etc. Mon âme était abattue au-dedans de moi. On dirait une phrase du roi David, là. Quand mon âme était abattue. Psaume 50, ouais, ou 13, ouais, ou je ne sais pas. Ouais. On dirait une phrase du roi David. Cette repentance, elle contraste à 100% avec son attitude de dépendance avant. Maintenant, il est dans une complète indépendance vis-à-vis de Dieu. Il se repent, et puis comme Claude vient de dire avant, il ira. Quand Dieu lui dit « va maintenant à Ninive », il ira. Donc, ça nous apprend...
Et fortifié.
Oui, comme tu as dit, fortifié.
Fortifié par cette épreuve.
Et donc, exactement.
Parce qu'il y aura, c'est tellement miraculeux ce que Dieu a fait pour lui.
Ouais, ça lui donnera la force
d'oser aller là-bas. Hein, la pêche pour aller là-bas.
Vu la grandeur du défi. Hein. Ouais.
Parce que moi, j'ai encore une idée qui me vient juste maintenant quand tu parles. D'abord, il ne voulait pas aller à Ninive, peut-être parce qu'il avait cet esprit nationaliste. Peut-être qu'il avait peur des Ninivites. Mais dans le ventre du poisson, il dit, mais comment ça se fait que je vis dans le ventre du poisson? Alors, il s'est peut-être dit, si Dieu peut me faire vivre dans le ventre du poisson, il pourra aussi me laisser en vie chez les Ninivites. Ouais. Peut-être. Oui, parce que comme tu as dit, ça l'a tellement fortifié, motivé. Peut-être que sa peur a disparu. Un peu ou beaucoup, j'en sais rien. Et puis il s'est dit, ah oui, alors il faut vraiment que je me confie en Dieu. Et Jésus le dira, n'ayez pas peur. ne craignez rien, je suis avec vous. Votre défense, je vous la donnerai au moment voulu.
Je pense que dans cette situation, il a dû reconnaître que c'était le vrai Dieu.
Voilà. Bah, il savait qu'il était le prophète du vrai Dieu.
Oui, mais il ne lui faisait pas confiance, puisqu'il voulait faire à sa tête.
Oh, je ne dirais pas... Enfin, c'est pas qu'il ne voulait pas lui faire confiance, c'est parce qu'il avait peur, oui. Me semble-t-il.
Ouais, c'est un peu un manque de confiance quand même.
Oui, mais il y a aussi un manque, oui, bien sûr.
Mais de toute façon, c'est ce qu'on voit au travers de ces livres, c'est que Jonas, il est profondément travaillé dans son cœur. Comme tu parlais avant, là, tu disais dans le ventre, il a peut-être oublié un peu ce côté nationaliste d'Israël en premier et par-dessus tout. Mais son cœur, on verra hein, dans la suite, est encore travaillé aussi avec l'histoire de la repentance de ces gens et de ce qui s'ensuit. Voilà, Dieu nous travaille, hein, on est l'argile, et puis on a jamais fini d'apprendre, de découvrir les choses sous un regard neuf aussi avec le Seigneur, c'est ce qui est magnifique. Et puis on voit que son cœur est travaillé, hein, comme vous l'avez soulevé. Là aussi au verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais c'est bizarre, parce que c'est exactement ce qu'il cherchait. Hein, au début, il s'est levé cherchant à fuir loin de l'Éternel. Et puis là, on voit qu'il y a vraiment son cœur qui change. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Donc, c'était ce qu'il cherchait. Mais tout d'un coup, il réalisait qu'en lâchant la mission du Seigneur, eh ben, il s'éloignait aussi de son Dieu, il s'éloignait de sa présence, il s'éloignait de son temple, de sa grâce, de sa paix, de sa présence dans sa vie. Mais je verrai encore ton saint temple. Hein,
la certitude de son
sortie. Cette certitude, exactement.
C'est pas parce qu'après être sorti 3 jours.
Comment il savait pas, mais il savait ça.
Ah, oui, mais quand tu vis quelque chose d'aussi puissant que ça, qui vient le délivrer de la mort, on ne sait pas comment. Ouais. Bah, je pense que oui, tu ne peux
pas. Tu dis, il y a encore peut-être un espoir. La
puissance de Dieu, et puis ta foi est renouvelée, ta confiance en Dieu. Donc, je pense qu'il est. Il y a de quoi tu peux que louer Dieu quand tu as vécu une expérience comme ça, j'imagine. Moi, j'ai jamais vécu 3 jours dans un poisson, mais déjà, il y a certaines expériences où on est au plus bas. Ben, je peux te dire que tu as envie de louer Dieu, puis de quand on voit sa grandeur et sa puissance. Donc, j'imagine que là, après 3 jours et 3 nuits, où il devait être mort, comme on a discuté, tu as de quoi, tu veux servir ton Seigneur, et puis. Parce que tu vois qu'il agit, puis qu'il est vivant et puissant, quoi. Donc,
C'est vrai qu'avec le Seigneur, on peut passer, bien sûr, par des temps difficiles, hein, des déserts. Et ça fait penser aussi à Job, hein, qui, à un moment donné, ayant tout perdu, sa femme dit, mais... Maudit ton Dieu est mort. Et puis, c'est là où on voit la grâce du Seigneur, qui vient à notre rencontre, qui nous relève, qui fortifie notre foi et qui nous donne de pouvoir aller plus loin dans le service. Mais c'est un peu le parcours de chacun d'entre nous, parce que je pense qu'on peut tous se dire, si on se regarde un peu dans le miroir et puis avec notre vie, avec notre vie passée, on a certainement eu des moments aussi où on s'est éloigné de la volonté du Seigneur. Mais Dieu nous apprend. On n'est pas toujours pleinement conscient de quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. J'ai une amie là qui me disait dernièrement, il y a plus grand que la foi. C'est vrai qu'on peut avoir une foi à déplacer les montagnes, mais il y a plus grand que la foi, il y a la volonté de Dieu. Parce que si notre foi est en dehors de la volonté de Dieu, notre foi, en fait, elle va nous faire tourner en rond, c'est tout. Il faut que notre foi soit aussi en accord avec la volonté du Seigneur. Et si, bien sûr, nous, on connaît toute l'histoire de Jonas, Mais si telle n'avait pas été la volonté de Dieu de le faire sortir vivant du ventre de la baleine, ben Jonas, il aurait beau eu exprimer des paroles de foi, sa prière aurait été vaine. Hein. Mais le Seigneur, il avait encore des projets, il avait encore quelque chose. Et c'est pour ça que Jonas a pu en sortir vivant. Mm-hmm. Tu voulais dire quelque chose?
Non,
tu voulais dire quelque
chose,
Anna? Voilà, ouais.
Oui, ça nous apprend à rester confiants, malgré la situation difficile que Jonas a traversée, vu que Dieu s'est occupé de lui, hein, quand même, jusqu'à la fin.
On voit aussi un caractère obstiné, hein, de Jonas, parce que l'expérience qu'il a vécue, bon, peut-être que je brûle un petit peu les étapes, mais c'est quand on voit la fin, on voit de nouveau qu'il redéfie Dieu, on voit quand même que ben, son caractère, il l'a toujours. Hein, on est avec un caractère.
Oui, je pense qu'on reste soi-même quand même.
Hein. Oui, oui. Mais il ne nous brise pas. Hein.
On s'améliore, on revient, on réfléchit, mais...
Et Dieu aussi donne des arbres aussi, ils avaient leur caractère, Pierre, tonnerre, le caractère, la pétonnerre et tout. Il a gardé son caractère, Dieu ne l'a pas brisé son caractère, mais il l'a mis à son service.
Il l'a modé quand même.
Il te tourne quand même.
Oui, il te façonne.
Il te façonne, mais il te laisse.
Il te laisse quand même quelque chose.
Ah, c'est sûr, hein, on sera jamais dans la perfection. Mais Dieu, c'est Dieu qui choisit. Et puis,
c'est son affaire. Ça, c'est vrai. C'est Dieu qui choisit. C'est pour ça qu'il y a. Vous êtes prédestiné. Pourquoi il y a ce mot? Souvent, j'ai remarqué dans la Bible, prédestiné. Si on est prédestiné, c'est-à-dire qu'on est choisi. Parce qu'on ne comprend pas. Et comme on sait que Dieu nous a aimés en premier, c'est pas nous qu'on a aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés en premier. Et comment ça se fait qu'il nous trouve? Il sait où nous trouver, même s'il en est dans la plus grande boue. Puis je peux vous en parler, vous avez un spécimen devant vous. Parce que dans la boue où j'étais, moi, je ne vous dis pas, j'ai tout fréquenté, j'ai tout vu depuis mon petit jeune âge, jusqu'à temps que le Seigneur m'a interpellé. Mais il sait comment vous attirer. Même si vous êtes dans la fosse au lion, vous fréquentez les endroits malfamés, vous êtes dans les bars, tout ça, il vous amène à un moment donné, si vous a choisi, vous êtes prédestiné. Ça, c'est ma vision des choses avec le recul. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous met dans une situation où, je vous dis ma propre expérience. J'étais au Moka à l'époque, vous savez, je vous parlais à 50 ans en arrière, si je sais pas, 55 ans. Et je me suis arrivé à me dire tout d'un coup, mais c'est pas moi qui ai réfléchi. Moi, je suis sûr que c'est Dieu qui me travaillait en moi déjà à cette époque-là. Mais tu fais quoi ici? C'est ça l'avenir, c'est ça la vie. Tu fais quoi sur cette terre? C'est pour faire ça, pour boire des cafés, boire des bières et essayer de rencontrer des filles et puis être avec des saoulons ou des gens qui boivent. C'est ça le sens de ta vie. Mais je vous jure, c'est un témoignage que je vous donne, à cette époque-là, j'ai eu cette interprétation. J'étais au Moka, je m'en rappelle encore maintenant, et c'est là que ça a commencé déjà à tourner pour moi. Et après, petit à petit, Dieu m'a amené à Radio Réveil pour faire une installation de climatisation. C'est moi qui ai fait l'installation. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui était à l'imprimerie, qui m'a donné des traités, qui m'a donné un témoignage. C'est parti un peu comme ça. Et puis, Dieu m'a dirigé aussi sur une assemblée. J'ai été à une ou deux, puis j'ai atterri ici à l'Évol. Il y a 55 ans, je suis resté toujours à l'Évol. Je ne vous dis pas, ça a été un long chemin tranquille, le bateau calme, les voiles.
Hein, il y a
eu des vagues et des tempêtes.
Il y a eu des menaces, je pense.
Voilà. Mais je suis toujours, vous voyez, je suis encore toujours là. Je suis toujours là encore. Mais pour vous dire, Dieu, on est comme prédestiné. Et comme tu as dit tout à l'heure, on dirait que Dieu nous a choisi.
Mais on l'oublie des fois.
Mais ce n'est pas possible autrement.
On l'oublie. Hein?
Il l'a. Hein? On est bien d'accord, mais on l'oublie. On croit que c'est. Voilà, c'est.
Parce qu'on a des membres à nous. Hein.
Voilà, non, on croit comme ça, ça vient tout seul, tout ça. Mais moi, je suis sûr que Dieu nous cherche depuis le début. Même si on est né au milieu de la mentalité catholique romaine, même si on était dépravé à n'en plus finir. Et quand on a fait des vertes et de pas mûres, mais vous savez que Dieu, il vous sait quand venir, il doit vous juger et vous parler. Mais pourquoi à certains, c'est pour ça qu'il nous a choisi, comme on disait tout à l'heure, pourquoi à certains ça marche et à d'autres pas? Et pourquoi les autres persistent dans l'erreur? et qui continue à le cultiver ça. Tu as réfléchi ça bien une fois. Les gens cultivent, ils continuent. Pourtant, ils sont interpellés, comme certains sont interpellés. Pourquoi ?
Dieu laisse libre.
Mais pourquoi il y en a Dieu certains qui sont attirés par ça ?
Par contre,
Dieu les attire comme un aimant, tu vois.
Une chose est certaine, c'est Dieu qui appelle à une œuvre ou à une autre. Hein, puis je vais terminer là-dessus, parce que tout le monde va partir sur un débat qui ne va pas finir encore ce soir, je crois. Dieu, ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne des dons spécifiques pour des ministères spécifiques. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que tu peux créer par toi-même, mais c'est un grand mystère. Mais c'est comme l'histoire d'Ésaü et Jacob. Hein. Il y en a un qui était choisi et l'autre pas. Dieu, voilà, il y a Dieu aimait les deux, mais sur un, il y avait un appel particulier. Là, on est dans la prédestination parce que Dieu, il met en nous le caractère qu'il veut aussi, et il met les dons qui lui seront utiles à son service, la mission qui lui sera utile pour sa gloire. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes, quoi. C'est le mystère du Seigneur. On n'a pas tous le même appel sur nos vies. On est tous appelés par le Seigneur, mais on n'a pas tous le même appel, quoi. Voilà.
Pour dire ce que tu viens de... Parce que ça, c'est pour le service que ce que Georges disait, c'est pour son salut.
Mmh. Voilà, oui, faisais la différence. Ouais.
Georges, tu viens de décrire exactement Romains 8, 28 et suivant. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a aimés et qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors que personne n'a encore glorifié à part le Seigneur, nous, on peut se considérer comme déjà glorifiés dans le ciel.
Assis donc, à la droite.
Ouais. Et puis Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors tu as vécu exactement ce que dit Paul dans Romains 8, 28 et suivant. Dieu t'a cherché, Dieu t'a appelé, Dieu t'a justifié.
Oui, on va laisser partir notre sœur. Merci de la visite, c'est super. Merci. Hein. Merci. Bonne fin de soirée.
Merci.
Vous m'excuserez si je suis parti un peu sur cet exemple de témoignage que j'ai donné. Il sortait de Jonas. Hein. C'était pas dans Jonas. Hein. Mais j'avais à cœur de vous le dire. Et puis, ça se mariait un peu avec le reste. Hein. Ça se mariait.
Non, mais c'est bien un arrière-plan de la vie de Jonas. Parce qu'en effet, c'est quand même un appel particulier sur la vie de Jonas. Et qui fait miroir aussi dans nos propres vies. Après, ce qui est de la prédestination, voilà, alors là, il y aurait des choses encore à débattre, parce qu'il y a différentes théologies là aussi.
Hein, ça fait 500 ans qu'on en débat.
Ah oui, c'est juste en plus, en fait,
ça. Ouais.
Alors là, mais je vous propose que je mette stop là, hein, sur la petite bestiole.
Mais